Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc c'est dans notre série des 10 commandements, et j'ai intitulé cette série « Des lois pour vivre ». Parce qu'à un moment dans la parole de Dieu, il est dit que ces lois ont été données pour vivre. Et donc, dans cette série, on a déjà abordé un certain nombre de points. Et donc, je vais faire un petit test pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent. Alors, les 3 premiers commandements concernaient notre relation avec Dieu. Les 5 suivants concernaient notre relation avec les autres. Et les 2 derniers, c'est ceux que nous allons voir maintenant, ils sont différents dans leur nature parce qu'ils nous concernent d'abord nous, ce qu'il se passe en nous et surtout notre paix intérieure. D'ailleurs, j'anticipe un petit peu, le verset est affiché. Par exemple, au milieu du verset, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». On pourrait penser que ça fait double usage avec « Tu ne commettras pas l'adultère ». Justement, on verra que c'est autre chose dans ce que nous allons étudier ensemble. Il y a une raison pour laquelle ça apparaît. D'accord ? Et on va voir que c'est quelque chose qui est plutôt intérieur. Et donc, le titre de ce message, c'est le 9e commandement, un extrait de ce verset. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ». Et donc, on s'arrête juste là, et la suite, on la verra la prochaine fois. C'est le 9e commandement, c'est juste « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ». Donc, une lecture superficielle de la Bible fait que des fois, on pense avoir compris quelque chose. On dit, le voisin, il a une maison plus belle que la mienne, ou comme dans les séries américaines, non, si vous n'avez pas la grande villa avec la piscine, éventuellement encore un cours de tennis, et vous avez raté votre vie. Donc, plein de gens qui n'ont absolument pas les moyens et qui ne l'auront jamais, mais ils vont vivre malheureux dans leur vie à regarder autour d'eux des gens qui soi-disant sont plus heureux qu'eux parce qu'ils ont plus de possessions de biens matériels et éventuellement ils vont convoiter. Convoiter, ça veut dire, on verra après encore une fois la définition, ça veut dire un vif désir de posséder. Donc vous pouvez n'avoir rien et convoiter, vous pouvez être très riche et continuer de convoiter. Il y a des gens qui ne sont jamais rassasiés. On pourrait dire, mais tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Mais toujours, il faut continuer de convoiter. C'est pour ça que ce commandement est un commandement qui parle de nous et de notre paix intérieure et comment on gère ça. Le fait de voir la maison, je parle maintenant maison physique de son voisin et de la désirer, de la convoiter, de la vouloir, c'est du ressort de la jalousie. Je pense que je mérite quelque chose que l'autre il a. Je mérite davantage, hein, parce que j'ai toutes sortes de raisons de penser que je devrais l'avoir plutôt que lui. Mais en réalité, donc on va voir ce que c'est la convoitise. On a déjà dit, c'est un très fort désir de posséder. J'ai regardé encore d'autres définitions, on trouve toutes sortes de définitions. J'ai vu même dans un dictionnaire biblique au niveau du grec que le mot convoitise et le mot désir, c'est le même mot grec qui, selon le contexte, est traduit par convoitise et selon le contexte, est traduit par désir. Alors qu'un désir naturel, il peut être sain. Dieu peut nous donner des désirs qui sont tout à fait justes. Il n'y a pas toujours une connotation négative, mais la convoitise, c'est toujours négatif. D'accord ? Donc, une des définitions, c'était un désir extrême, il est dit, ou immodéré, de posséder quelque chose. Vous pouvez avoir envie de vous acheter quelque chose, mais ça peut être naturel. Mais un désir immodéré, ça, il le faut absolument tout de suite. Et c'est la pub agit beaucoup là-dessus, hein, pour dire, ah, tu ne peux pas t'en passer, il faut que tu l'aies rapidement et tu sois le premier à l'avoir. Des fois, on voit quand un nouvel appareil technologique sort, les gens ils sont dans la rue hein, pour attendre. Le magasin n'a pas encore ouvert, la grille n'est pas encore tout à fait levée, il y en a qui se baissent et pour courir, pour avoir le premier, l'objet. Et il y a aussi une notion de cupidité. Et il nous est dit, de telles richesses, par rapport à des richesses qu'on veut absolument posséder, elles exaspèrent les convoitises, ça veut dire elles les font multiplier, elles les font se développer. Et il y a aussi un aspect, écrit ici que c'est dans le domaine littéraire, un désir de posséder charnellement quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a aussi la convoitise, que les gens habituellement appellent la convoitise de la chair, et qu'il puisse y avoir un désir de posséder. C'est dans un autre sens. Donc on va voir aussi certains aspects où des manifestations de convoitise se sont passées dans la Bible. Dans 1 Samuel 2, parce que c'est bon d'avoir des exemples dans la parole de Dieu, et ça nous montre que ces gens étaient des gens de la même nature que nous, ils avaient les mêmes défis, mais on va voir comment ça a été géré, plus ou moins bien, et des fois pas bien du tout. Et ici c'était quelque chose justement de très négatif. Il nous est dit que dans 1 Samuel 2, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie, ça s'écrivait E-L-I, et les fils de ce sacrificateur, 1 Samuel 2, 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ce n'est pas un signe de réussite pour un sacrificateur et un homme de Dieu avoir ses fils qui sont des hommes pervers. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il nous est dit qu'ils avaient une manière d'agir, qu'ils utilisaient de leur position pour piller le peuple de toutes sortes de façons. Et il nous est dit au verset 13, quand quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où on le faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Et même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra point de toi de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Donc, le côté intéressant n'était pas le détail culinaire, si c'est cuit ou cru, ou si c'est de la viande ou quoi. La chose importante, c'est que il désirait, et il a imposé sa volonté, et il a dit, si tu le donnes pas, je prends de force. Ça, c'est une manifestation de quelque chose que on convoite, on est prêt à tout pour l'avoir. C'est ça que je voulais démontrer par ce passage biblique. Mais il nous est dit que cet homme de Dieu, sacrificateur, a reçu un reproche de la part d'un autre homme de Dieu, et il a dit que Élie, le sacrificateur, honorait ses fils plus que l'Éternel. Il est dit au verset 29, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» On pourrait trouver un très grand nombre d'exemples, on en verra d'autres encore, où il y a des manifestations de convoitise. Mais je voulais déjà aussi vous montrer cet aspect, que des fois il y a des choses que on peut désirer et qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu voulait. Si nous n'avons pas la loi de Dieu, il nous est dit que on ne sait pas ce que c'est la convoitise à moins que ça soit révélé. Donc ça c'est mon deuxième point, la loi révèle la convoitise. Dans Romains 7, versets 7 et 8, il nous est dit toute une démonstration de nous en tant que chrétiens, de ce qui s'est passé en nous et avant qu'on soit à Jésus. Il dit « Je ne connais le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Donc s'il n'y a pas de règle établie, chacun peut faire ce qu'il veut, d'accord ? C'est naturel, c'est normal. Mais à partir du moment où une chose est interdite, là, on peut dire, là, il y a infraction de la loi. Donc, Dieu avait besoin de montrer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Donc, c'est quand la loi est apparue et qu'il ait été dit, tu ne convoiteras pas, c'est là qu'on a pu voir qu'un certain nombre de comportements révélait la nature humaine qui veut aller contre ce que Dieu a dit. Alors, souvent les gens ne gardent l'impression des 10 commandements que faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison qui veut nous conduire à comprendre certaines choses. Pourquoi il ne faut pas convoiter? Parce que ce sont des sentiments négatifs qui nous détruisent d'abord nous en premier, mais qui détruisent aussi beaucoup de choses autour de nous, qui ont des impacts dans la vie de gens incroyables. Et je voudrais vous montrer un exemple biblique très concret et qu'on va voir comment c'était une succession de choses. Dans 2 Samuel 13, il y a une histoire de la Bible qui est assez dure, mais elle est crue aussi. Mais c'est parce que c'est la vie réelle des gens. Donc le roi David, il avait beaucoup de fils et de filles. Et entre autres, voilà l'histoire telle qu'on nous la raconte. Dans 2 Samuel 13, il nous est dit « Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, donc d'une autre femme, l'aima. » Soulignez bien, il l'aima, il nous est dit. Mais après, il nous est dit la nature de cet amour. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire sur elle la moindre tentative. Donc on se pose la question, quelle peut être la nature de son amour pour cette jeune fille? C'était clairement la définition de la convoitise telle que nous l'avons vue tout à l'heure. Un désir de posséder. Et il va conduire non seulement cet homme, mais aussi la jeune fille et toute la famille, juste à cause d'un désir de convoitise. Ça va détruire des choses dans la vie d'un nombre important de personnes. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans la suite ? Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, donc c'était son cousin. Et ce Jonadab était un homme très habile, on pourrait dire très rusé. Même peut-être on pourrait dire malin, parce que le conseil qu'il a donné, c'était pas vraiment un conseil de la part de Dieu. Il dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab lui dit, mets-toi au lit, fais le malade, quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle me prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha, fit le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux afin que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde !» Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur !» Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Et où irais-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël ?» Et là, c'est remarquable. Elle dit, « Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas que je sois à toi. » Elle était prête même à envisager de devenir la femme. Bon, c'était son demi-frère, et puis on va pas rentrer dans ce genre de considération, parce que pour nous, c'est quand même une question incestueuse qui est assez choquante. Mais toujours est-il qu'elle était prête, mais la suite c'est « il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, en d'autres termes, il la viola, la déshonora, coucha avec elle ». Et au verset 15, ce qui est plus important encore maintenant pour que nous comprenions la conclusion, « Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. » Et lui dit, « Lève-toi et va-t'en. » Et puis, il l'a fait chasser. Donc, ça, c'est juste pour démontrer ce qui se passe au milieu de notre société, autour de nous, partout. Les gens, à cause de la convoitise, ne sont plus capables de réfréner quoi que ce soit qui se passe en eux. C'est le désir de posséder à tout prix. Et il faut qu'ils obtiennent tout ce qu'ils veulent sans comprendre les conséquences. Et les conséquences ne sont pas des conséquences heureuses. C'est pour ça que Dieu dit « tu ne convoiteras pas ». Pas seulement la femme de ton prochain ou des choses d'autre nature, mais il l'a dit « tu ne convoiteras pas ». Je vous donne juste la fin de l'histoire. Absalom, le frère de Tamar, a entendu que sa sœur a été violée. Il a lui-même tué son demi-frère. Ensuite, il y a eu la fuite d'Absalom. Puis Absalom est revenu, il a fait une révolte contre David. Il y a eu des milliers de morts, juste à cause d'un seul désir de convoitise. C'est ça que nous devons comprendre, comment une seule pensée, une seule semence dans l'esprit d'un être humain, si on ne le traque pas, si on ne travaille pas à ce niveau, ça peut nous détruire finalement. Et pas seulement nous, mais ça a des conséquences pour l'entourage aussi.
C'est pour ça que Dieu nous donne des lois pour vivre, pour qu'on puisse vivre ensemble, en harmonie. Et si on peut attendre le temps de Dieu, ici, il nous est même dit, la jeune fille a dit, « Parle au roi, il ne s'opposera pas que je sois à toi. » Ils auraient, s'ils s'étaient vraiment aimés, ils auraient pu être heureux ensemble avec la bénédiction du Père. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais non, il fallait tout de suite et à sa façon. Et on comprend la nature de l'amour quand il dit « Après, il avait plus de haine pour elle qu'il n'avait d'amour au départ. » Alors, avec cette illustration, hein, vous voyez, la Bible est très claire sur ce qui se passe et on peut reconnaître les comportements humains. Je voudrais juste encore vous dire, dans 1 Jean 2, versets 16 et 17, il y a une exhortation. « Tout ce qui est dans le monde... la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » D'accord ? Demeure éternellement, ça veut dire il reste. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de la durée. Pensez à cette promesse, il dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Mais pour la convoitise, Dieu s'opposera toujours à toi. Parce qu'il veut ton bien, il ne veut pas que tu te détruises toi-même. Donc les gens confondent ça. Si j'ai un désir, alors il faut donner libre cours à son désir. Non, le désir, tu dois voir, est-ce que c'est un désir de Dieu qui est bon pour toi, qui va te rendre heureux? Ou est-ce que c'est une pensée de convoitise qui va te détruire finalement? Et ça demande un peu de travail, ça demande du discernement, ça demande aussi de la discipline. Alors vous me direz, quel rapport maintenant avec la maison? Ben, on y vient. Maintenant on va voir juste cet aspect de la maison. Convoiter la maison de son prochain. La maison c'est plus qu'une habitation. Dans la Bible, c'est plus qu'une habitation, la maison. Prenons un exemple dans 2 Samuel. On est toujours un petit peu dans des histoires qui gravitent autour de David. Dans 2 Samuel, à un moment donné, donc si vous vous rappelez, David a dû fuir loin de Saül. Il y a une armée qui l'a rejoint de gens qui étaient un peu dans la même situation que lui. Il nous a dit des gens qui étaient pourchassés, des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient dans des problèmes. Ils sont tous venus trouver refuge auprès de David. David a commencé à s'élever de plus en plus, selon la promesse de Dieu qu'il serait un jour le roi d'Israël. Il avait quand même été oint par le prophète pour ça. Et donc il consulte l'Éternel dans 2 Samuel 2. Et il dit, « Monterai-je dans l'une des villes de Juda ?» Et Dieu lui répond et dit, « Monte !» Et David dit, « Où monterai-je ? » L'Éternel répondit, « À Hébron. » Et donc il nous est dit, David y monta, avec ses deux femmes, Akinoam de Jisréel, Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui. Il nous est dit, « Chacun avec sa maison. » D'accord ? Ils n'ont pas emmené leur maison, ils n'avaient pas une roulotte non plus, ils n'étaient pas un camping, chacun emmenait sa tente et puis ils ont fait du camping. Donc chacun avec sa maison, c'est juste pour souligner le fait, ça veut dire quelque chose. Quand Josué dit « Moi et ma maison serviront l'Éternel », c'est pas juste une question personnelle le salut, c'est personnel, mais en même temps, dès que le salut entre dans la maison de quelqu'un par un individu, Dieu veut sauver le reste de la famille. C'est son projet, c'est son plan. Il dit pas, j'ai choisi toi, mais pas lui, etc. Non, il veut que ça s'étende, que ça soit comme une contagion, une bonne contagion de la grâce de Dieu. Et donc ici, on voit qu'ils sont venus, chacun avec sa maison. Et donc à un moment, on peut dire que David a été roi sur la maison de Juda. On parle de ça aussi. Des fois, la maison... Et on cite l'un des noms des fils d'Israël, la maison de Juda. Donc, ce terme de maison est très important, la maison dans la Bible. Il y a toutes sortes de citations, des proverbes que vous pouvez trouver. Dans Proverbes 14, 11, il est dit, « La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. » Jésus a dit à Zachée, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et quand Zachée l'invite à rentrer dans sa maison, c'est pas juste les quatre murs avec le toit, c'est plus que ça. Et quand Jésus dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison », ça veut dire que la présence de Jésus, c'était pas seulement pour Zachée, mais aussi pour tous ceux qui étaient autour de lui. Nous pouvons regarder aussi ensemble dans Actes 16, 31, pour ceux qui prient pour leur famille, vous l'avez peut-être souvent utilisé. Quand le geôlier de la prison demande à Paul et Silas qu'est-ce qu'il faut faire, au verset 31, Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc si vous pouvez bien visualiser ce qui s'est passé, on parle de famille, maison, logement. C'est pas toujours les mêmes choses. Mais l'idée générale et la vision de Dieu, c'est ça qui est important. Que vous compreniez que Dieu veut bénir cet homme, mais aussi sa famille, tout ce qui lui appartient. Et on voit que beaucoup ont suivi avec tous les siens. D'accord ? Donc, on a cette notion de maison maintenant, la maison. Avec la notion de maison que nous avons définie, vient aussi le nom. Lorsque les premiers hommes dans Genèse ont voulu construire la tour de Babel, disons commencer, ils ont dit « faisons-nous un nom ». Nous voyons ça dans Genèse chapitre 11. La Bible dit dans Ecclésiaste que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Je crois que l'homme naturel n'accepte pas la brièveté de l'existence. Certaines personnes pensent, bon voilà, on vit un moment sur terre, et après c'est le trou, c'est le néant, il n'y a plus rien. Mais pour la plupart des êtres humains, ils expérimentent ce que la Bible dit, c'est qu'il y a dans nos cœurs une pensée de l'éternité. Et donc beaucoup recherchent l'immortalité, la vie éternelle, sous quelque forme que ce soit. Et une des façons de faire perdurer notre vie, c'est le nom. Une des façons où certains ont pensé que c'était important, c'est qu'on se souvienne d'eux au travers du nom. C'est peut-être quelque part un peu irréaliste. C'est pas parce qu'on se souvient de ton nom que toi tu vis plus longtemps. Mais c'est une réalité. Comme certaines personnes, quand elles perdent un être cher, on va vous dire des choses, il continue de vivre dans nos cœurs, ou tant qu'on va se rappeler de lui, il sera vivant. C'est pas pour ça qu'il est vivant. Vous voyez, c'est bien de se souvenir de quelqu'un, c'est bien d'avoir la mémoire, mais la vie de la personne, elle dépend avant tout de la vie qu'elle a avec Dieu. C'est lui qui est le Dieu d'éternité et qui permet qu'on puisse vivre dans sa présence pour toujours. Alors si on veut se consoler par certaines pensées, ce n'est pas ça qui va aider. Mais ça montre simplement qu'il y a quelque chose dans le cœur de chaque être humain qui recherche l'immortalité, qui recherche le fait que le nom puisse continuer. Dans la tour de Babel, donc, il nous est dit que les gens étaient déjà mal orientés et ils voulaient donc, verset 4, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et Dieu voit ce qu'ils font, il n'est pas dans ce projet et il confond leur langage et ce projet n'a jamais pu aboutir. Mais à un moment, ils avaient ce désir de faire continuer le nom. Pour ceux qui connaissent le film 3, vous avez le personnage d'Achille qui il veut que son nom puisse traverser les âges, être connu encore des siècles après. Et on lui dit, au début de la guerre de Troie, donc dans le film, on lui dit, si tu vas à cette guerre, tu vas mourir. Mais on se rappellera de ton nom. Si tu restes ici, tu seras vivant. Alors, tu auras une famille et tes enfants se rappelleront de toi. Mais au bout d'un moment, on t'oubliera. Mais si tu vas là, eh bien, on se rappellera de toi comme le plus grand guerrier de tous les temps. Et alors, c'est une idée qui est merveilleuse pour lui. Et il se dit, oui, c'est ça que je veux. Et à un moment, il se tourne vers ses soldats et dit, regardez, vous voyez ce qui vous attend là-bas, c'est l'immortalité. Allez-y, prenez-la. L'immortalité, toujours dans cette pensée que si je suis un vaillant guerrier, alors on se rappellera de moi. Mais nous savons que toutes ces choses ne servent à rien, mais c'est des choses que les gens cherchent pour trouver cette réalisation de « je veux être un peu plus que juste un insecte sur la planète Terre qui avait une brève existence ». Moi, je crois profondément que c'est à cause de ça. Parce qu'on a en nous ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui doit nous rattacher à l'éternité. J'ai une destinée, j'ai quelque chose à accomplir sur Terre. Et donc, je veux marquer mon existence. Je veux que ma maison soit connue. J'ai fait une petite expérience il y a des années de ça. On a rencontré le professeur d'un de nos enfants. Et c'était pour l'occasion d'un départ à la retraite. Puis je me suis présenté. Il a dit, ah oui, Sold, oui. C'est un nom qui marque parce qu'il avait plusieurs de nos enfants. Mais ça m'a fait plaisir, je l'ai dit. Voilà. Un autre professeur qui avait plusieurs de nos enfants, il dit, ah oui, c'est la dynastie Sold. Alors on prend tout ça avec beaucoup d'humour, mais je veux dire, c'est ce que les gens recherchent. Un impact. Qu'on se rappelle d'eux, que quelque chose a été fait et que votre maison soit connue. Notre fils qui est parti au loin, qui est au Québec actuellement, donc il rencontre des gens et ils disent « Ah, tu es le fils de Claude !» J'ai l'impression que bientôt on me dira peut-être que moi je suis le père de Nathanaël, si lui est plus connu dans certains milieux. Mais c'est parce qu'on rattache toujours des personnes à d'autres personnes. Il y a des gens qui, en se présentant dans les anciens temps, on n'avait peut-être pas le nom et le prénom, ben on disait fils de. Hein. Par exemple, Aragorn, fils d'Arathorn, descendant d'Isildur. Donc il y a des gens qui savent tout de suite ce que ça veut dire. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre quelle est notre place de la maison. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ça veut dire que tu ne cherches pas à copier son héritage. Tu ne cherches pas à te greffer sur son identité, mais tu trouves ce qui est à toi personnellement. C'est ça qui compte. Toujours dans les histoires du roi David, pour cette histoire d'Absalom, quand Absalom était loin, Joab, le chef de l'armée, avait utilisé un stratagème pour essayer de faire revenir Absalom. Donc il nous est dit qu'il a pris une femme qui était habile, qui savait un peu présenter les choses avec des mots choisis et tout ça. Elle a raconté toute une histoire dans 2 Samuel 14, 6 et 7. Elle dit au roi, « Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, « Livre le meurtrier de son frère. » Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Voyez, c'est ça le principe. Le nom et l'héritage qui doivent continuer. C'est ce que ces personnes cherchaient. Pourquoi c'était tellement important? Il nous était dit que quand, par exemple, à un moment, ils ont voulu piéger Jésus en disant, mais voilà, une petite histoire, il y a un homme qui était marié, et puis il est mort, et sa veuve a épousé son frère, parce qu'il fallait faire continuer le nom du défunt. Et alors, le deuxième est mort, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et le sixième, et le septième, ils sont tous morts, et aucun n'a eu de descendance. Alors, c'était la question piège, mais c'était pour souligner ce côté, ils voulaient toujours que la descendance et le nom soient transmis. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de comprendre que nous avons un héritage. Même si vous êtes pauvre, vous avez un héritage. Et d'ailleurs, David, il a construit, enfin Dieu lui a bâti une maison, pas dans le sens quatre murs et toit, mais il lui a construit une maison. Et nous voyons ça dans 2 Samuel encore. Très important qu'on puisse bien comprendre cette notion parce que, franchement, je suis persuadé que ça va vous aider à trouver votre place dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et que vous pourrez en même temps être une source de bénédiction pour toute votre famille. Quand le prophète Nathan a parlé à David dans 2 Samuel 7, verset 17, et lui a dit ce que Dieu allait faire, David a cette prière. Il nous a dit, il alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Qui suis-je et quelle est ma maison? Il nous est dit que avant que David ait été choisi, il se considérait comme, déjà, il était le plus petit de toute la fratrie, ça c'était pas bon, hein. L'aîné avait tout et les autres se distribuaient les restes. Mais c'est lui qui a été choisi. Quand Saül a dit, ben, je donnerai ma fille en mariage à celui qui fera ceci, cela, David a dit, mais comment puis-je être le gendre du roi? Moi, je suis pauvre, je suis rien du tout. Et donc, de rien du tout, il est passé à être un des généraux de Saül, à devenir le gendre du roi, et puis, il a de nouveau tout perdu. Vous le réalisez, ça? Il a dû fuir, il n'a rien emmené avec lui. Et il s'est réfugié loin, il avait de nouveau tout perdu. Et de nouveau, Dieu l'a restauré. Et maintenant, avec tout ce qu'il a connu, et ce n'était pas toujours très glorieux de ce qui s'est passé, maintenant il arrive au terme de sa vie, et le prophète Nathan lui donne une vision, et qui dit que sa famille sera bénie sur des générations, et nous savons que par héritage, Jésus est né de cette filiation, de cette lignée. Et donc il dit, mais c'est extraordinaire, c'est peu de choses à tes yeux, Seigneur, que tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses. Il est subjugué par la révélation que Dieu a un projet qui va au-delà de génération et de génération et de génération. Il était peut-être déjà content de sa destinée, de petit dernier berger, il arrive à être roi d'Israël, il était richissime. Quelques ans, on fait des calculs, c'était en milliards de milliards qu'il avait à la fin de sa vie, parce qu'il a donné énormément de son or personnel pour la future construction du temple, de quelqu'un qui avait rien du tout. Mais nous ne parlons pas tellement des choses matérielles et des richesses, mais de ce principe de l'héritage et de ce que nous pouvons transmettre. Donc vous pourrez le lire si vous voulez, mais un peu plus loin, il y a encore quelque chose au verset 27. « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». Vous voyez, il a commencé à une fondation. Après, on n'a pas parlé que David était fils d'Isaïe, ce n'était pas tellement important. Quelque chose a commencé à partir de David, et puis c'était devenu la maison de David. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage et t'adresse cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Vous voyez, éternellement. De nouveau, quelque chose qui dépasse largement ce qu'un être humain peut concevoir. Donc, pour vous aussi, vous avez peut-être des problèmes, vous avez des choses que vous voudriez voir, des solutions pour votre famille, votre business, votre santé, des choses comme ça. Mais Dieu va encore beaucoup plus loin que ça. Et David n'aurait jamais pensé que ça irait jusque-là. Vous pouvez être une source de bénédiction qui va infiniment au-delà de ce que vous imaginez. Donc, nous voulons transmettre un héritage. Et là, nous avons encore un point important de voir combien les gens de l'époque considérer la valeur de ce qu'il transmettait. Dans 1 Roi 21, nous avons aussi une petite histoire. Ça se passe avec le roi Akab. Akab n'était pas un roi qui vivait selon Dieu. Sa femme était profondément engagée dans l'occultisme et toutes sortes d'adorations d'idoles païennes et avait une très mauvaise influence sur lui. Et lui n'était pas très consacré non plus. Et voilà ce qui se passe pour Akab. Le roi du pays, on pourrait dire il manquait de rien, mais après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » On pourrait dire, ah, ça c'est un bon deal, le roi du pays, intéressé par ma possession, je peux en retirer un bon prix, je vais le faire. Qu'est-ce que vous auriez fait? En tout cas, Naboth avait une autre conception des choses. Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Vous voyez, c'était tellement important pour lui, l'héritage de ses pères. Ce qui avait été transmis de génération en génération, ça appartenait à Naboth. Et j'ai l'impression que actuellement, on n'a plus cette notion de la valeur de l'héritage, et surtout de l'héritage spirituel, de ce qu'on peut transmettre à d'autres. Je veux dire, voilà, mon père ou mon grand-père, c'était un homme droit, un homme d'intégrité, il m'a transmis des valeurs, et moi je veux les entretenir, ces valeurs, et je veux les transmettre à mon tour, et puis que ça continue comme ça. Et donc, juste pour raconter la fin de l'histoire, mais l'essentiel pour nous était dit, c'est que cet héritage de ses pères avait de la valeur. La femme d'Akab, donc Jézabel, a organisé un procès truqué avec des faux témoins qui ont accusé Naboth. Et donc, il s'est fait tuer. Et ensuite, le roi n'a pas eu de problème pour s'attribuer cette propriété. Mais il y a eu une parole de Dieu contre le roi et contre Jézabel à cause de ça, parce que Dieu est le juste juge. Et la parole de l'homme de Dieu, du prophète, s'est réalisée exactement. Donc, Jézabel, plus tard, elle est morte dans la ville, dans la vigne de Naboth, et il nous est dit que c'est les chiens qui ont dévoré son cadavre, avec tous les détails bibliques que vous voulez, pour montrer que cette chose s'est réalisée. Ça veut dire qu'on ne rigole pas avec ça. L'héritage de ses pères, c'est quelque chose d'important. C'est dans un contexte comme ça qu'on peut voir aussi l'impact de la parole de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Actuellement, vous avez des gens qui ont une plus grande longévité. Il y a beaucoup de gens maintenant dans les maisons de retraite, ils ont des médicaments, ils vivent longtemps, mais certains perdent la tête. Et il y a beaucoup de tentations aussi de captage d'héritage. Nous avons vu des choses autour de nous aussi se passer, que des gens, peu à peu, on les a dépouillés. Et on a pris ce qu'ils avaient, au lieu que ça soit transmis à la famille naturelle. Donc il y a une vulnérabilité. Mais surtout pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on réalise qu'il faut qu'il y ait cette transmission. Donc qu'est-ce qui nous a été transmis? Peut-être vous dites, moi je suis pas d'une grande lignée royale, n'a pas de château à transmettre. Mais si, vous êtes une lignée royale, parce que en Jésus, vous avez été intégré dans la famille de Dieu. Ceux qui croient à la réincarnation, ils veulent faire miroiter devant les gens quel personnage avez-vous été autrefois. Et les gens veulent tous être quelqu'un d'important, une célébrité, ou les gens veulent avoir dans leur lignée, quand ils font les arbres généalogiques, au moins un général ou un prince ou autre chose. Mais c'est juste pour flatter l'orgueil des gens. Hein, on a vu la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et cela n'est sans valeur réelle. Mais pour nous, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on réalise que nous avions une filiation avec notre Père Céleste. Et dans Éphésiens 3, il nous est dit, et c'est tout ce qui compte pour nous, au verset 14, « À cause de cela... » Ça peut être une bonne conclusion de tout ce que je vous ai partagé. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Toute famille, on peut dire toute maison. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des gens de la maison de la foi. Nous sommes des gens qui sommes héritiers du Père. D'accord? C'est pas juste des paroles en l'air. Maintenant, on comprend. On a reçu quelque chose. Ça a de la valeur. Je l'entretiens. Mais si mon voisin, il a quelque chose, je ne convoite pas sa maison à lui. Je ne convoite pas sa position à lui. Crée ta propre position, découvre qui tu es. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Il y a de la place. D'accord? On est assis avec Christ dans les lieux célestes, à la droite du Père. Mais il y a de la place. C'est pas comme si avec une place, il faut se bousculer pour avoir cette place. Elle t'est réservée. Il nous est réservé, il nous est dit dans la parole de Dieu. Donc, il y a des choses qui nous sont réservées. De la même façon, je reviens encore une fois à David, à un moment, il dit, mais ce qu'il y a de meilleur en Israël, n'est-ce pas réservé pour toi? Il y avait une parole du prophète pour celui qui avait été choisi. C'était leur conception. Donc, sa divine puissance nous a donné tout. D'accord? C'est ça qui compte. On a tout reçu. On n'a pas besoin d'être jaloux, on n'a pas besoin de convoiter, on n'a pas besoin de « Ah, si seulement j'étais comme lui », etc. Et donc, regardons simplement la parole de Dieu. Romains 13, 14, et ce sera vraiment mon mot de la fin. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vous avez besoin de nourrir quelque chose, nourrir ce revêtement de Jésus-Christ. Être revêtu de lui, c'est avoir ce vêtement royal. Le fils prodigue, ben voilà, quand il était chez les cochons, c'était plus une superposition. Il avait méprisé l'héritage de son père pour aller loin. Il a tout perdu. Il est revenu dans la maison du père et il a été restauré. De nouveau un habit, un anneau, une position, une famille, c'est ça qui compte. Donc pour nous, même si on s'est éloigné un moment, même si on a un peu laissé tomber les vêtements royaux, on peut de nouveau se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin, parce que ce qu'on soigne le plus, c'est ce à quoi on donne de la valeur dans notre vie. C'est ce que nous voulons faire. On veut soigner notre vie dans l'esprit. On veut soigner le fait de qu'on reçoive la révélation de Dieu. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour tes paroles. Je prie que tu nous donnes un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance, qu'on puisse comprendre à quoi on est appelé. Merci pour ton regard bienveillant sur chacun d'entre nous. Merci pour la restauration que tu opères quand on en a besoin, quand on a été blessé. C'est toi qui apportes la consolation, comme tu l'apportes pour ceux qui souffrent, qui sont dans le deuil ou qui sont dans une autre situation. Merci parce que tu es toujours prêt par ton Saint-Esprit à agir. Merci Seigneur de nous révéler encore quelle est la valeur de ce que nous avons reçu de toi. Ne m'a pas méprisé des choses qui sont saintes, des choses qui sont précieuses, et de pouvoir vraiment vivre ce revêtement de Jésus quotidiennement. Au nom de Jésus, amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org.